À Rencontre spirituelle, en ce lundi de Pâques, l'émission est consacrée entièrement à la résurrection de Jésus. Est-ce qu'on peut vraiment croire que Jésus est ressuscité? Ou bien ce serait pas mieux d'éliminer cet élément de notre foi? C'est un problème qui se pose de plus en plus. Il y a tellement de gens qui s'attaquent à cette question que on se demande comment faire. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. L'an dernier, à l'occasion de Pâques, de grandes revues américaines comme Newsweek, Time, puis US News and World Reports, c'est les trois grandes revues dans le genre de la revue Le Point, en France, ou disons un petit peu l'actualité ici, des revues extrêmement populaires, ont fait à la une de leur couverture l'annonce d'articles à l'intérieur où on attaquait la réalité historique de la résurrection du Christ, si bien que le pape a cru bon de répondre à ça le 24 avril de l'an dernier, il y a près d'un an. Et il avait très bien répondu. Et aujourd'hui, je voudrais répondre aussi à cette question grave, je crois. Le Christ est ressuscité, peut-on s'en assurer? Je m'inspire du très beau livre dont je vous parle souvent, ce livre de Pierre Découvement, Les difficultés, le guide des difficultés de la foi catholique. L'annonce de la résurrection de Jésus d'entre les morts, c'est bien au cœur de ce que les apôtres sont allés porter à travers le monde, cette bonne nouvelle, comme on dit, cet évangile. Et vous savez qu'ils sont presque tous morts martyrs à cause de cela. Il y a Saint Jean qui n'est pas mort martyr. Mes autres semblent bien tous être morts martyrs pour défendre cette affirmation absolument unique dans l'histoire. Oui, unique. D'ailleurs, tout à l'heure, à l'émission de l'abbé Claude Bertrand, qui est prêtre de Montréal, son émission Minuit moins 5 chrétiens, qui vient de se terminer, il a bien parlé de ça, à un moment donné, en disant qu'aucune religion n'a mis jusqu'ici au centre de sa doctrine qu'un homme bien concret a été ressuscité quelques jours après sa mort, et qu'on l'avait vu, qu'on l'avait touché. Les bouddhistes n'ont jamais dit cela du Bouddha, ni les juifs n'ont jamais dit ça de Moïse non plus, et ni les musulmans de Mohammed, ou de Mahomet si vous préférez. Cette foi sépare ou partage ou fait un des aspects de la très grande différence entre les chrétiens puis les non-chrétiens. Nous croyons en la résurrection. Et pour savoir si quelqu'un est chrétien, il suffit de lui poser cette question. Jésus est-il pour vous quelqu'un de vivant? Il y a eu de très beaux livres là-dessus. On a eu des réponses très surprenantes, très étonnantes. Je pense en particulier à celle de Louis de Funès, ce fameux comédien qui était un homme très cultivé, vous savez, un homme de grand goût, un homme tout à fait différent de celui que l'on voyait au cinéma. Et dans ce beau livre paru il y a déjà 25 ans, aux éditions du Cerf, pour vous, qui est Jésus-Christ? Un beau petit livre, genre livre de poche, là. Et il avait répondu, Jésus-Christ a été pour moi le radieux compagnon de mon enfance, de mon adolescence. Et il est maintenant et toujours le radieux compagnon de ma vie familiale et professionnelle. Louis de Funès, ça peut surprendre, mais c'est très beau ce qu'il répond, cet homme. Et alors donc, je vous donne des exemples quand on pose cette question. Jésus, est-il pour vous quelqu'un de vivant? Vous savez que si vous posez cette question-là à un témoin de Jéhovah, même s'il fait le porte-à-porte avec sa Bible, des témoins de Jéhovah sous le bras, où il y a des traductions légèrement transformées, eh bien, il va répondre non. Il ne croit pas que le Christ est vivant. Pourquoi? Parce que, en somme, les témoins de Jéhovah ne croient pas vraiment au Christ comme nous y croyons. Ils ne sont pas ce qu'on pourrait appeler vraiment chrétiens. Ils ne croient pas à la divinité du Christ. Et donc, il ne croit pas à la Trinité et ni à la présence réelle. Un musulman, quant à lui, considère Jésus comme un très grand prophète. On le peut le lire dans le Coran. Mais le musulman ne le croit pas ressuscité. D'ailleurs, si vous avez lu le Coran, moi je l'ai lu, je l'ai étudié, eh bien, on voit bien que le Christ, d'après eux, ou cet homme qui est mort sur le calvaire, n'est même pas Jésus de Nazareth. C'est quelqu'un d'autre. C'est assez étonnant. Mais c'est l'affirmation que le Coran fait. On ne sait pas où ils ont pris ça. Parce que c'est tout à fait contraire au texte de l'Évangile, écrit 600 ans avant le Coran. Une affirmation scandaleuse pour la pensée grecque, c'est bien la pensée de la résurrection de Jésus. C'est à cause de cette affirmation, d'ailleurs, que saint Paul, vous vous souvenez, s'est fait conspuer là, par l'élite intellectuelle de son temps, l'aréopage d'Athènes, qui avait tenu à l'écouter, commenter la doctrine surprenante qu'il annonçait. On voit ça dans les Actes des Apôtres. Et aussi longtemps que saint Paul parle de sa conception de Dieu, de ses vues sur la création du monde, de l'histoire du peuple juif, bien, on l'écoute avec assez d'intérêt, et même pas mal d'intérêt. Mais quand il se met à préciser que pour lui, le mot anastasis, c'est le mot grec qui signifie résurrection, que anastasis n'est pas une divinité particulière, à côté des autres divinités grecques comme Isis et Osiris, etc., mais bel et bien la résurrection d'un homme concret, Yeshua de Nazareth. Ça, c'en est trop. Hein. C'est dans les Actes des Apôtres, je vous ai dit, c'est au chapitre 17. Puis, si vous lisez bien le verset 32, les Grecs lui disent, les Athéniens, « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui nous arrive quand on parle de résurrection. Les gens sont portés à hausser les épaules ici et là et disent, « Oh, nous t'entendrons une autre fois. » Il n'est pas mauvais de nous rappeler, dès le début de cette émission, que la toute première prédication de l'Évangile à travers l'Empire romain s'est faite dans un climat qui était tout à fait allergique à l'idée de résurrection. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas d'aujourd'hui, vous l'avez vu, le pape a dû répondre à ces articles, parus l'an dernier dans ses grandes revues américaines. Mais c'est pas rien que là qu'on trouve ça, on trouve ça bien ailleurs. Les historiens déclarent que si le christianisme s'est répandu rapidement, c'est parce qu'il contenait des éléments de doctrine en consonance avec les désirs du temps et notamment un idéal de fraternité universelle. Bon, fort séduisant. Pourquoi? Parce que ça permettait aux esclaves de se libérer, et eux qui attendaient leur libération. Ils trouvaient la liberté, là. Mais ces historiens devraient ajouter qu'au cœur de cette religion naissante qu'est le christianisme se trouvait une affirmation qui est en totale contradiction avec la mentalité païenne, laquelle considérait comme méprisable quoi la réalité corporelle de l'homme. Ça peut vous surprendre? Oui, considérez pas le corps comme intéressant. Les Grecs faisaient un jeu de mots grâce à la ressemblance là, entre deux mots de leur langue, deux termes, soma et sema. Ils aimaient dire ceci, le corps, soma, vous savez, on dit c'est somatique, ça vient du mot corps. Le corps, soma, est un monument funéraire, c'est-à-dire sema, un monument funéraire, comme on en voit dans les cimetières, une prison de l'âme. Alors, le corps est une prison de l'âme. Il faisait des jeux de mots. On entend ça parfois dans le christianisme. Il y a des gens qui ont une spiritualité méprisante pour le corps. Elle est contraire à la vraie foi chrétienne. Les Grecs ne pensaient absolument pas que le corps pouvait participer un jour à la béatitude céleste. Seule l'âme, selon eux, dans l'ancienne Grèce, là, est digne d'entrer dans les Champs-Élysées du paradis. C'est de là que ça vient, l'expression « les Champs-Élysées ». Le paradis. Dire que j'entendais l'autre soir, lors d'un CEDER où on m'a invité, l'animatrice nous dire que le christianisme à l'encontre du judaïsme et des autres religions anciennes ignore le corps et le méprise. Personne n'a osé lui dire quoi que ce soit. Elle a tout affirmé ça. Mais c'est contraire à la foi chrétienne. Notre corps, il est vénéré même aux funérailles. Il est béni, encensé, considéré comme le tabernacle de la Trinité. Nous sommes habités de Dieu dans notre corps, qui est un miracle. Et c'est donc un véritable miracle psychologique, justement, que la foi à la résurrection ait pu s'imposer en milieu grec. Mais ça n'a pas été facile. Même le bon peuple de Corinthe, vous savez, les épîtres aux Corinthiens de saint Paul, le peuple de Corinthe en Grèce, qui, contrairement à l'élite intellectuelle d'Athènes, a fait bon accueil à l'Évangile, on voit ça dans le chapitre 18 des Actes des Apôtres, mais ce peuple-là a eu beaucoup de peine à accepter l'idée que les morts devaient un jour ressusciter pour de bon. Paul a dû consacrer à cette question tout un long chapitre de sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15. C'est que la résurrection est au cœur de la mystique chrétienne. Vivre avec le Christ, là. Vivre avec le Christ vivant. Vivre en lui. Ces deux termes expriment les deux façons fondamentales dont les chrétiens, les disciples de Jésus, vivent leur relation avec le ressuscité de Pâques. Le chrétien essaie de mener toutes ses activités en pensant que le Christ est avec lui. Comme Louis de Funès tout à l'heure. Et comme les saints, je m'excuse de parler de Louis de Funès, mais qu'est-ce que vous voulez? Il l'a dit, et c'est très beau, c'est très beau. Réjouissons-nous qu'un grand comédien qui nous a tant fait rire, et qui nous fait toujours rire, même s'il est décédé, c'est tellement formidable, puisse penser comme ça. Alors le chrétien, lui, il essaie, je vous ai dit, de mener ses activités en pensant que le Christ est avec lui, comme il était sur la route avec les deux disciples d'Emmaüs, vous savez, l'après-midi de Pâques. Il croit que son visage de gloire, que toute son humanité transfigurée est là, toute proche. Oui, nous croyons que son corps échappe mystérieusement aux limitations de l'espace et du temps. Nous croyons que toutes les lois de la vie terrestre sont supprimées. Le corps est glorieux. Nous croyons que le regard plein d'amour de Jésus est posé sur nous, à tout instant du jour et de la nuit. Sans rechercher à l'imaginer, le chrétien se laisse séduire peu à peu par cette présence de Jésus dans sa vie. Autrement dit, le chrétien prend très au sérieux quoi? La dernière phrase adressée par le Christ à ses apôtres après la résurrection, vous vous souvenez? « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Par sa résurrection, c'est saint Paul qui l'a dit, le Christ affirme, il est devenu Seigneur de l'univers. Le Christ est la tête d'un corps dont nous sommes les membres, et nous sommes dans le Christ. C'est une expression qui revient combien de fois? 174 fois dans les lettres de Paul. Et nous sommes ici devant un autre aspect de la vie chrétienne. Le ressuscité Jésus n'est pas seulement l'ami fidèle de tous les instants présent à nos côtés, il est celui qui nous fait vivre. Et qui vit en nous. Comme dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Puis les sacrements sont le moyen privilégié de se laisser davantage envahir puis transformer par cette présence agissante. Jésus le dit bien, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Relisez ça, c'est si beau ce chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Et n'allons pas croire qu'en avançant dans la vie spirituelle, le chrétien n'a plus besoin de penser au visage et aux mains de Jésus, comme je vous en ai parlé vendredi matin, ou vendredi soir, si vous l'avez écouté à 11h, le vendredi saint. C'est le contraire. À la fin de sa vie, Thérèse d'Avila, me semble que je suis en bonne compagnie quand je parle comme j'ai parlé le vendredi saint, mais Thérèse d'Avila accordait une importance croissante à la sainte humanité du Christ. Communier pour elle, cette grande sainte docteur de l'Église, peut-être la plus grande sainte de toute l'histoire de l'Église après Marie, eh bien, communier pour elle, c'était vraiment se laisser empoigner par les mains du ressuscité, se laisser même embrasser par lui. Mais elle n'oubliait pas que les bras du Christ étaient ceux-là même, qui avaient été attachés pour elle sur le bois de la croix. D'où l'importance capitale de cette question. Question très grave. Est-il bien vrai que le Christ est vivant pour toujours? Que son corps est ressuscité? Mais d'où vient l'assurance des chrétiens à ce sujet? Et comment les chrétiens peuvent-ils être sûrs? On ne doit pas répondre de façon simpliste. Je ne répondrai pas de façon simpliste. Parce que les convictions des chrétiens s'appuient normalement sur trois éléments que je vais développer tout à l'heure. Une expérience personnelle du Christ vivant, comme l'a eu Claudel, d'ailleurs, en 1886. Il y a une perception de la présence du Christ à travers les signes qu'il nous adresse. Puis l'expérience aussi, l'expérience du temps de Pâques, des jours des suites des jours de Pâques, attestée par les 12 apôtres. Je développerai ça tout à l'heure. Être sûr que le Christ est ressuscité. Je vais donc m'appuyer sur trois éléments. Une expérience personnelle du Christ vivant, d'une façon ou d'une autre, petit à petit ou brusquement. Le chrétien qui vit sa foi, c'est un homme qui a rencontré le Christ, une femme qui a rencontré le Christ, comme quelqu'un de vivant. Autrement, la foi est embryonnaire. On connaît le cri de Claudel, je vous ai parlé de Claudel, résumant d'un mot, sa fameuse conversion à Notre-Dame de Paris. Vous avez peut-être écouté mon émission sur Paul Claudel il y a quelques semaines. C'était l'après-midi de Noël 1886, près d'un pilier qui est marqué aujourd'hui quand on va à Notre-Dame de Paris. Là, il y a une inscription qui indique que c'est là que s'est converti subitement. Il a écrit au sujet de sa conversion, « Et tu devins, Seigneur, tout à coup, quelqu'un pour moi. Quelqu'un. » Il y a une perception aussi de la présence du Christ à travers les signes qu'il nous adresse. Ça, c'est le deuxième point. Il y a des gens qui sont plus sensibles à la conversion d'un François d'Assise ou d'un Charles de Foucault, disons. Je vous en ai parlé. Il y a d'autres personnes qui sont plus sensibles au témoignage d'une communauté chrétienne moderne d'aujourd'hui, ou une communauté très ancienne, que ce soit des trappistes, des bénédictins, des chartreux, qui vivent leur vie chrétienne profonde. D'autres sont sensibles aux guérisons miraculeuses de Lourdes, c'est pour ça que je vous en raconte assez souvent. D'autres, enfin, auront besoin de la convergence d'un grand nombre de signes pour voir briller aux yeux de leur foi la lumière pascale du ressuscité. Certains trouveront la présence du Christ grâce au linceul de Turin, comme je l'ai fait vendredi, le vendredi saint. Je vous ai parlé de la passion de notre Seigneur éclairée par le Saint-Suaire de Turin, les textes de l'Évangile éclairés. Et l'expérience pascale qui est attestée par les 12, c'est une troisième approche pour permettre aux chrétiens d'aujourd'hui de croire à la résurrection de Jésus. Voilà des témoins, les 12 apôtres, des témoins privilégiés de la résurrection de Jésus, leur maître. Ce sont des piliers de la foi de l'Église. Même si les apôtres nous semblent bien lointains, nous, chrétiens, aujourd'hui, nous devons y penser de temps en temps, au moins, que nous, chrétiens, nous appuyons notre foi sur le témoignage exceptionnel de ces hommes qui, seuls dans l'histoire, ont pu dire « Nous avons vu le Christ ressuscité, nous avons bu et mangé avec lui ». Après sa résurrection d'entre les morts, je viens de vous citer le 41e verset du 10e chapitre des Actes des Apôtres. Nous avons vu le Christ ressuscité, nous avons bu et mangé avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Il est donc indispensable d'étudier de près ce témoignage, si important pour la solidité de notre foi aujourd'hui. La rencontre que les 12 apôtres ont faite de leur maître ressuscité, c'est une expérience unique au monde, ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la liturgie catholique, orthodoxe et chrétienne en général célèbre si solennellement leur fête. Ce qu'ils ont vu, ce n'est pas le fruit d'une extase de type mystique, telle qu'on a pu en bénéficier à travers l'histoire, comme chez Thérèse d'Avila ou Sainte Marguerite Marie à la Coque, la voyante de Parimonia, je vous ai parlé de ces saintes déjà. Dans ce cas, le voyant est ravi dans un autre monde, au point qu'il devient totalement insensible au monde extérieur qui l'entoure. Vous vous souvenez au moment où elle voyait la Vierge sur le rocher de Massabiel à Lourdes, la Sainte Bernadette, j'en ai parlé, ne sentait absolument pas la flamme d'une bougie qu'on approchait de ses mains. Et parlant de ses propres extases, saint Paul avouait, « Était-ce en son corps, il parle à la troisième personne, hein, était-ce en son corps, était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Toujours est-il que cet homme-là, il parle de lui-même, là, fut ravi jusqu'au troisième ciel, c'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12. Il semble bien que ce fut une extase de ce genre que saint Paul a eue déjà sur le chemin de Damas. Et terrassé sur le sol, il devient aveugle, et pendant quelques jours, il n'avait plus Dieu que pour la merveilleuse réalité qui venait de se manifester à lui, le Christ dans sa gloire. Sous prétexte que Paul se nomme dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, à la fin de la liste des témoins privilégiés du Christ ressuscité, il y a des exégètes qui ont essayé de nous persuader que l'expérience pascale des apôtres n'avait été qu'une expérience de type mystique, comme celle de Sainte Thérèse d'Avila et les autres, semblable d'ailleurs à celle qu'a fait Paul sur le chemin de Damas. Les apôtres n'auraient été en somme que les premiers à expérimenter la présence du Christ ressuscité dans leur vie. Puis les apparitions du Christ à ses apôtres, leur relatées par les évangiles, ne feraient que traduire en langage plus ou moins mythologique cette expérience du Christ vivant que chacun de nous pourrait refaire aujourd'hui dans sa propre existence. Mais cette interprétation, je la trouve bien réductrice, bien minimisante des récits évangéliques. Ça correspond absolument pas au texte. Les évangélistes savent très bien distinguer une apparition de type mystique, telle que l'expérience faite par Saint-Pierre, Saint-Jacques, Saint-Jean sur la montagne, vous savez, de la Transfiguration, Mont-Tabor. Puis les apparitions autrement réalistes du Christ ressuscité à ses disciples dans les jours qui ont suivi sa Pâque. En résumé, il importe de bien distinguer l'expérience paulinienne ou Saint-Paul, de Saint-Paul du Christ ressuscité, puis l'expérience pétrinienne de Saint-Pierre. N'ayant pas connu Jésus avant sa résurrection, saint Paul n'avait pas besoin de vérifier l'identité entre le Galiléen puis le ressuscité. Mais saint Pierre puis les autres apôtres en avaient au contraire énormément besoin, c'est pourquoi le Christ les a fait bénéficier d'une expérience qui ne devait jamais se renouveler dans l'histoire et qui a beaucoup d'importance pour la suite des âges. Saint Paul lui-même, pourtant déjà bien, bien convaincu de la résurrection du Christ, tient à faire le voyage de Jérusalem pour aller passer 15 jours auprès de Saint-Pierre, on voit ça dans l'Épître aux Galates, puis recueillir de lui le témoignage qui lui manquait. Il voulait entendre de la bouche de Saint-Pierre ce que lui avait vu vraiment, le Christ dans son corps ressuscité. Et les manifestations du Christ aux 12 apôtres sur le bord du lac de Capharnaüm, ou bien dans le cénacle de Jérusalem, sont tout autres que des fantaisies. Ce ne sont pas les apôtres qui sont ravis jusqu'au troisième ciel. C'est le Christ qui vient au milieu d'eux, tout simplement, qui se laisse appréhender. Jésus s'assoit à leur table et leur fait toucher du doigt la réalité de son corps ressuscité. C'est vraiment lui. Une expérience qui ne se prolongera d'ailleurs pas au-delà de l'ascension. Ça ne dure que quelques semaines. Il est temps de faire une étude maintenant poussée de ce témoignage rendu par les 12 apôtres. Quel genre de crédit nous pouvons lui accorder? Il va sans dire que nous ne pourrons jamais atteindre la réalité du Christ ressuscité comme nous atteignons la réalité d'un fait historique, c'est sûr, à partir du témoignage de personnes attestant l'avoir vu. La résurrection de Jésus, du Christ, est une réalité transhistorique qui ne peut être atteinte que par les yeux de la foi. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, après sa résurrection, le Christ ne s'est manifesté qu'à ses disciples prêts à croire en lui, y compris les disciples d'Emmaüs. Il n'empêche que nous pouvons étudier comme un fait historique le témoignage rendu par les apôtres il y a 20 siècles. Puis on peut voir si ce témoignage mérite d'être pris en considération. Le témoignage des apôtres, il date des premières années après les faits qui ont eu lieu en avril et en mai de l'an 30, le Christ étant ressuscité le 9 avril de l'an 30. Et c'est pour ainsi dire une attestation immédiate. C'est une attestation immédiate. Il existe des traces très anciennes de la foi des premières communautés chrétiennes dans la résurrection du Christ, et c'est ce que je vais développer dans la deuxième demi-heure pour vous montrer jusqu'à quel point on peut croire vraiment que le Christ est ressuscité. Aujourd'hui, il est question de la résurrection de Jésus, puisque c'était hier la fête de Pâques, nous sommes dans l'octave de la fête de Pâques, de la résurrection du corps de Jésus, résurrection exceptionnelle, une résurrection de son corps non pas vouée à mourir de nouveau quelques années plus tard, mais résurrection glorieuse, dans des conditions uniques dans l'histoire de l'humanité. Alors, il existe des traces très anciennes, vous ai-je dit tout à l'heure, de la foi des premières communautés chrétiennes en la résurrection du Christ. On sait par exemple qu'en l'an 51, donc une vingtaine d'années après la résurrection, que datent les deux premières épîtres de Paul aux Thessaloniciens. Les Thessaloniciens, les habitants de Thessalonique, attendaient tellement le retour du Seigneur dans sa gloire qu'ils avaient tendance à presque plus travailler. Paul est amené à leur écrire « Celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus ». En l'an 57, donc quelques années à peine plus tard, Paul écrit sa première lettre aux Corinthiens. Il y fait allusion à son premier séjour au milieu d'eux. Or, nous savons, par les Actes des Apôtres, chapitre 18, que ce premier séjour de l'apôtre à Corinthe a eu lieu quand? Sous le proconsulat de Gallion, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire en l'an 51, justement la même date que tout à l'heure, l'an 51. Et c'est l'une des dates les mieux assurées du Nouveau Testament, ça. C'est très tôt après la résurrection, 20 ans. Et nous trouvons dans la première lettre de Paul aux Corinthiens deux passages extrêmement précieux, dans un style qui n'est pas du tout le sien. Très, très important, c'est ce que je viens de dire. C'est pas son style. Paul cite de mémoire deux extraits, oui, des extraits de la catéchèse qu'il a reçue comme jeune converti à Damas ou à Antioche de Syrie. Donc, vers les années, quoi, 36-39, ça veut dire 6 ou 9 ans après la résurrection de Jésus. Cette catéchèse qu'il avait déjà donnée à la communauté de Corinthe en l'an 50 et qu'il rappelle dans sa lettre de l'an 57. Et voici ce texte qui date donc de 6 à 9 ans après la résurrection de Jésus. C'est au chapitre 15, je vous le rappelle, de la première épître aux Corinthiens. Je le lis. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, auquel vous restez attachés et par lequel vous serez sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis, en premier lieu, ce que j'avais reçu moi-même. » Deux points. Qu'est-ce qu'il a reçu? « Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. » Il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Il est apparu à Képhas. Il l'appelle Képhas, c'est Pierre. Puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est aussi apparu à moi l'avorton. On peut lire aussi au chapitre 11 de la première épître aux Corinthiens. Moi, voici ce que j'ai reçu du Seigneur et ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe après le repas en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Alors, comment pouvons-nous savoir que dans ces deux passages, Paul cite sa catéchèse de nouveau converti qui date de l'an 36 ou 39, 6 ou 9 ans après la résurrection de Jésus? C'est très important. D'abord parce qu'il emploie les termes techniques pour désigner la transmission d'un enseignement qu'il a lui-même reçu d'un autre. Et aussi parce qu'il utilise dans ces deux récits que je viens de vous lire, un vocabulaire, c'est très important, qui n'est pas le sien. et vérifions-le si vous voulez. C'est un peu technique, mais ça vaut la peine. Vérifions-le en regardant de près le premier de ces textes. Hein. Il dit « mort pour nos péchés ». D'ordinaire, Paul emploie le mot « péché », « amartia » au singulier. Et ici, il est au pluriel. C'est un signe qui a quelque chose de différent. Il dit, selon les Écritures, « katatas graphas », ce n'est pas l'expression utilisée habituellement par l'apôtre pour citer les Saintes Écritures. Un langage différent. « Il est ressuscité le troisième jour », il dit ça au quatrième verset. Paul écrit « le jour le troisième », c'est du mauvais grec, alors que l'apôtre maîtrise parfaitement sa langue. Rien d'étonnant. Son texte, c'est la traduction littérale du texte araméen ou hébreu de son premier catéchisme. Et du coup, il place l'adjectif « ordinal » comme en araméen ou en hébreu. Il y a une inversion. Ensuite, quand il dit « je vous l'ai fait remarquer », il est apparu à Képhas. Mais quand Paul parle de Pierre, il donne en général son nom grec « Pétros ». Or ici, il utilise son nom araméen « Képhas ». Et finalement, bien, il dit « puis aux douze ». C'est la même chose. Quand Paul parle des douze, il parle ordinairement des apôtres, apostoloi. Ici, il écrit les douze dodeca. Ce n'est pas son style. On peut faire la même démonstration pour le chapitre 11, le plus ancien récit que nous ayons de l'institution de la très sainte Eucharistie, de la messe, quoi. Paul y utilise des expressions qui lui sont pas coutumières, hein. Quand, par exemple, il emploie le verbe « rendre grâce »,« eucharistie », c'est toujours avec un complément. Paul rend grâce à Dieu pour la foi, la charité, l'espérance des Thessaloniciens, ou pour la façon dont les Philippiens vivent l'Évangile. Mais ici, là, le mot « ayant rendu grâce » est pris dans l'absolu, comme cela se fait en hébreu pour désigner la prière d'action de grâce que fait le chef de famille au début d'un repas. Et ici encore, Paul cite un texte qui n'est pas de lui. C'est un extrait de la catéchèse qu'il a reçu des années plus tôt après sa conversion et qu'il tient à transmettre tel quel. Vous comprenez bien? C'est donc des textes très, 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 très tôt après la résurrection. Vous voudrez bien me pardonner cette étude un petit peu technique, j'ai terminé. Mais le résultat est pas mince de ce que je viens de dire. Puisque ça nous permet d'affirmer sans risquer d'erreur qu'en l'an 39, ou même l'an 36 de notre ère, soit 6 ou 9 ans, je le répète, après la mort de Jésus, il existe déjà des chrétiens qui croient à sa résurrection. Un témoignage particulièrement important, mais très important même. À supposer, disons, que la foi en la résurrection de Jésus, là, ça a été forgé de toutes pièces par ses premiers disciples, qui est forcément la thèse des historiens croyants qui écrivent aujourd'hui, et depuis déjà des siècles, mais c'est très fort aujourd'hui, cette création du mythe de la part des disciples, ce serait accompli en un temps record, même pas 10 ans. Or, l'on sait par l'histoire des religions, quand on étudie l'histoire des religions, que les mythes religieux mettent toujours beaucoup plus de temps à se créer. La très grande ancienneté de cette foi en la résurrection, comme je viens de vous le prouver, de Jésus, la résurrection de Jésus, c'est donc déjà un bon indice de son sérieux, puisque c'est très très tôt après les événements. Je poursuis l'enquête. Quel est finalement le problème qui se pose à l'historien, qui réfléchit au fait que très vite, des disciples de Jésus ont affirmé qu'il était ressuscité d'entre les morts? Eh bien, de deux choses l'une. Ou bien les disciples étaient des fanatiques, tellement impressionnés par leur maître, qu'ils ne se sont pas résignés à sa mort. Alors, ils ont fait un peu comme, je m'excuse de la comparaison, mais les disciples d'Elvis Presley. Alors, vivant intensément de son message, puis dans la vénération de son souvenir, bien, ils ont fini par se persuader qu'il était vivant au milieu d'eux, puis ils ont inventé de toutes pièces l'histoire qui leur était apparue quelques jours après avoir été déposé dans le tombeau de Joseph d'Arimathie. Et dans ce cas, bien, toute la foi chrétienne reposerait sur cette invention par des disciples enthousiastes de ce mythe de la résurrection de Jésus. Ou bien, voilà, les disciples étaient des gens sincères et objectifs, qui ont raconté tout bonnement ce qu'ils avaient vu. Alors, est-ce qu'on peut découvrir dans les récits évangéliques des indices de la sincérité des apôtres? Eh bien, je le pense. La sincérité des évangélistes se manifeste tout d'abord par la discrétion avec laquelle ils nous parlent des apparitions du ressuscité. Pensez que le nombre de pages consacrées à cet événement est très très réduit par rapport à l'ensemble de leur œuvre. Matthieu, lui, il n'y consacre que 2,4% de tout son évangile. Saint Luc, lui, 3,6%. Puis Saint Marc, un peu plus, 4,5%, mais c'est pas beaucoup. Puis Saint Jean, bien lui, il va jusqu'à 6,1% de tout son évangile. Puis pas beaucoup. Ce petit nombre de pages est d'autant plus impressionnant que la résurrection du Christ, elle constitue le noyau de la bonne nouvelle, le noyau des évangiles qu'il désire annoncer. Quand on est sincère, on brode pas. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas brodé. Puis le silence total des évangélistes là, sur la fameuse heure H de la résurrection, à quelle heure est-il ressuscité? Puis de la façon dont le Christ est sorti du tombeau aussi, ils ne font pas de description inventée de ça. Ici encore, les évangélistes ne cèdent pas à ces tentations de nous raconter des choses merveilleuses et excitantes. Là. C'est une tentation à laquelle vont céder d'ailleurs des chrétiens de la fin du premier siècle ou du début du second. Et dans un récit, vous avez déjà peut-être lu ça, qui est écrit vers l'an 120 puis attribué à l'apôtre de Pierre, à Saint-Pierre. Vous savez, c'est un texte apocryphe, comme on dit. Et on nous présente le Christ sortant de son tombeau, évidemment, tenant à la main un étendard de la victoire. On voit ça sur des tableaux. Et entouré de deux anges à la stature si imposante que leur tête atteint les nuages. Quel contraste, mon Dieu, entre ces mises en scène des évangiles apocryphes puis la sobriété de nos évangiles. Ah, l'extrême simplicité des récits des évangiles, moi, ça me touche profondément. Ils contiennent des détails qui n'ont pas pu être inventés par les apôtres, puisqu'ils ne commencent pas par une proclamation éclatante de l'événement. Hein. D'ailleurs, je vous invite, mesdames qui m'écoutez, écoutez bien ceci, c'est très important. Tout d'abord, la première personne à laquelle Jésus apparaît au matin de Pâques, c'est qui? C'est une femme, vous le savez, Marie de Magdala. Or, à l'époque, le témoignage d'une femme avait si peu de valeur que les femmes n'étaient même pas convoquées au tribunal pour témoigner. Or, les évangiles racontent la vérité, ils racontent ce qui est arrivé, même si ça peut surprendre. Puis ensuite, Jésus n'est pas aussitôt reconnu par les siens. C'est étrange ça, on le prend pour le jardinier du calvaire ou pour un amateur de poissons du bord du lac. Puis les apparitions du Christ n'ont rien de fulgurant. Comme la manifestation de Dieu à Moïse sur le Sinaï, comme on voit ça au début de la Bible, hein? Ou même comme la magnifique transfiguration de Jésus au mont Tabor devant ses apôtres. Hein? Non, le Christ vient au milieu des siens, tout simple, chez eux, dans leur vie, sur leur chemin, là, comme les disciples d'Emmaüs, dans leur métier, pour bien leur montrer que désormais sera toujours avec eux, comme je vous disais tout à l'heure. Hein? Invisible, mais bien vivant. Mais enfin, la courte durée de la période des apparitions. Jésus n'apparaît que 4 ou 5 fois sur une période de 40 jours, puis il disparaît dès qu'on l'a reconnu, dès qu'il a transmis son message, puis dès qu'il a envoyé ses apôtres en mission. Il me semble que la preuve est faite. Vous direz que c'est peut-être pas archi-convaincant, mais il me semble que c'est très convaincant. Le témoignage rendu par les apôtres au tout premier temps de l'histoire de l'Église est digne de foi. C'est sûr, la résurrection de Jésus n'est pas un événement historique dont on pourrait prouver l'existence à partir d'une simple étude des textes évangéliques. Bon, affirmer que le Christ est ressuscité d'entre les morts, c'est proclamer un mystère qui n'a jamais été et ne sera jamais l'objet de constatations en principe. Quoique je vais vous parler de quelque chose tout à l'heure. Et même lorsque l'apôtre Thomas a pu voir de ses yeux et toucher de ses mains le corps ressuscité de Jésus, il a dû faire un acte de foi, vous vous souvenez, pour reconnaître en lui son Seigneur et son Dieu. Et c'est lui qui dit le premier « Mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu ». Et pour croire que désormais ce Jésus serait avec lui tous les jours de sa vie, même lorsqu'il ne le verrait plus de ses yeux de chair. Et saint Paul le dit bien dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12. Nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par l'Esprit Saint. Alors la foi en Jésus-Christ est toujours le fruit d'une expérience personnelle. Que nous fait vivre qui? L'Esprit Saint. J'ai, je l'espère, réussi à montrer ici que la foi des chrétiens, notre foi, s'appuie sur l'expérience très spéciale qu'on fait en ce temps-là, des témoins choisis d'avance pour proclamer de par le monde, ce qu'ils avaient vu et entendu. Ils ont été témoins de la vie de Jésus depuis son baptême par Jean-Baptiste jusqu'à son ascension dans le ciel. On le voit dans le premier chapitre des Actes des Apôtres. Il n'est pas défendu aux chrétiens de chercher dans les très anciens documents dans lesquels nous est conservé leur témoignage des signes de leur sincérité. Et je reprends alors en quelque sorte le travail que Luc avait déjà entrepris lorsqu'il s'est mis à préparer la rédaction de son évangile. Je le cite, c'est au début de l'évangile, tout début, « Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent, dès le début, témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a paru bon à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. Je vous verrai tout à l'heure avec autre chose en rapport avec le linceul de Turin. » Il y a une demi-heure un chant grégorien, à la demi-heure un chant d'un chœur patriarcal russe, et vous venez d'entendre un beau chant de l'église milanaise, qui nous reporte à plus de 1000 ans, justement, puisque ça vient de 1000 ans, mais ça date d'il y a 1000 quelques années. Dans l'évangile de saint Jean, il est dit des choses très étranges. On dit que saint Jean entre dans le tombeau et il regarde le linceul resté là. Et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. Ce sont des traductions qui ne sont pas exactes. Puisqu'il est dit après, c'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Il vit quoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Au fond, rien. Ce qu'il a vu, c'est pas ça du tout. Quand on lit dans, je le recommande aux prêtres de lire dans Esprit et Vie, c'est une revue extrêmement intéressante. C'est le numéro du 5 mai 1977, c'est pas d'aujourd'hui, c'est la découverte du tombeau vide en Jean chapitre 20, versets 3 à 10, et la foi au Christ ressuscité. C'est un article extrêmement important. Or, il est dit vers la fin que le sudarium, c'est-à-dire le tissu qui était, enveloppait la tête du Christ comme pour lui tenir la, on appelle ça aussi une mentonnière, pour lui tenir la bouche fermée, était demeuré enroulé bien distinctement à l'endroit unique qu'avait occupé la tête du Christ et qui maintenant était vide. Il en résultait que ce sudarium, ce morceau de, ce mouchoir, si vous voulez, avait gardé la forme d'un cerceau. Et l'auteur dit, faisant notre profit des indications si précieuses du Père Laverne. Vous vous souvenez de mon émission il y a quelques semaines sur le fameux Père Laverne, très, très, très grand exégète, fondateur de l'École biblique de Jérusalem. Eh bien, il dit, faisant notre profit des indications si précieuses du Père Laverne, nous avons postulé que le participe grec, comme pour son correspondant latin involutum, le double sens de envelopper et de enrouler. Je m'explique. Le sudarium, cette pièce de tissu donc qui enveloppait la figure de Jésus, est resté là, à l'intérieur du linceul, et le linceul s'est affaissé. L'auteur dit ici, en vérité, on ne voit pas pourquoi le quatrième évangéliste aurait décrit avec une telle minutie, une telle insistance, la disposition des linges funéraires, si c'était seulement pour nous apprendre les banalités exprimées par les traductions les plus courantes. Il en va bien autrement, quand on comprend les choses avec toutes les précisions qui viennent d'être données. Comprise de la sorte, la disposition des linges funéraires devient un signe très éloquent de l'accession du Christ à une vie nouvelle. En d'autres termes, le corps du Christ ressuscité sort du linceul sans le déranger, ce linceul, qui tombe à plat avec l'autre pièce du tissu qui enroulait la tête à sa place, là où le linceul, qui est une immense pièce de tissu, était rabattu par-dessus le corps de Jésus. Je vous rappelle, le corps de Jésus était déposé sur une longue pièce de tissu, si longue qu'elle faisait plus de 2 fois la longueur de son corps, et que la partie au-dessus de sa tête a été rabattue sur son corps jusque par-dessus ses pieds. Et c'est ça qui est tombé à plat. C'est ça qu'il a vu. Et pour vous dire jusqu'à quel point c'est important, on peut trouver dans des textes extrêmement sérieux et extrêmement intelligents, dès le début du siècle, par Yves Delage, qui était un incroyant, qu'il était inexplicable d'après lui, tellement extraordinaire que les taches de sang n'aient pas été blessées par l'arrachement du corps du linceul. Non, les taches de sang sont aux délimitations extrêmement précises. Il n'y a aucun problème, aucun problème. Il faut que le corps se soit comme dissous, passé à travers le tissu. D'autre part, l'image elle-même dépasse tout entendement. Il y a un très beau livre que je vous recommande, « Mort et résurrection du Christ, d'après les évangiles et d'après le linceul de Turin ». C'est écrit par qui? Par un dominicain éminent, le père Ferret. Ce n'est pas n'importe qui. Il écrit, dans la ligne qui pour le croyant est celle du passage du corps du Christ enseveli, à la transcendance divine, la résurrection, observons seulement que les savants travaillant sur les photographies d'aujourd'hui s'accordent à constater que le linceul ne fut en rien froissé ni chiffonné comme le font habituellement les draps dont un dormeur se dégage. Quelqu'un exprime ainsi ce qu'il en fut. Nul critique objectif ne peut contester l'idée que ce linceul a enveloppé le corps d'un supplicié, mais un corps qui, dans une effulguration de chaleur et de lumière, s'anéantit, tout en nous laissant son image marquée de façon indélébile sur la face du tissu qui l'enveloppait. Désirions-nous donc, dit le père Ferret, ici le passage de l'état de corps matériel à l'état de corps spirituel dont parle saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, que je vous ai lu tout à l'heure. Le père Ardouin du Parc, dans un exposé oral qu'il a fait à Dijon il y a longtemps, 1961, faisait état de toute une tradition de pères grecs, les orthodoxes, qui soulignaient que le corps spirituel du Christ se dégageait en effet de ses linges, sans avoir à les rejeter, voire sans avoir à les toucher. L'expression « corps spirituel » est en français assez pâle, sinon contradictoire et quelque peu fantomatique. Elle a, au contraire, une grande densité de réalisme et de force dans le grec de la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15. Elle rappelle « Quand la condition de ressusciter, le corps est soumis au régime de l'esprit, comme, dans la condition terrestre, l'esprit est soumis au régime du corps. » Et ainsi, nous pourrions avoir, selon bien des auteurs aujourd'hui, une preuve, vous le prenez comme vous voudrez, de la résurrection de Jésus. Il faut lire ses ouvrages. Il faut retourner aux beaux articles d'André Feuillet dans Esprit et Vie. Il faut lire « Mort et résurrection du Christ » publié chez Buchet-Châtel par le père Ferret. Il faut lire « Histoire ancienne du linceul de Turin jusqu'au XIIIe siècle » par le fameux père Dubard, le dominicain, qui était un grand intellectuel et un savant. Il faut lire les livres plus récents, comme « La science à l'épreuve du linceul » de M. Upinsky, U-P-I-N-S-K-Y, publié aux éditions de l'Œil, une analyse extrêmement scientifique et très bien faite. Mais je ne saurais trop vous recommander des livres plus adaptés peut-être à nos conditions d'aujourd'hui, comme « Le Suaire, une énigme à l'épreuve de la science » de M. Horatio Petrosillo, publié chez Fayard. Enfin, il y a bien d'autres livres qui pourraient être recommandés. Il y en a tellement d'excellents. Il faut lire ça pour se rendre compte combien l'image qui s'est produite n'a pas été détruite. Il a fallu que le cadavre soit resté dans le drap au moins 24 heures et pas plus que quelques jours, sans quoi la putréfaction aurait détruit l'image et finalement aussi le drap. Il faut vraiment comprendre que le Christ ne peut avoir laissé cette image et les taches de son sang que s'il est ressuscité. C'est la conclusion des grands savants de nos jours. Ce n'est pas des petits savants, de grands savants.